Le journal, présenté par Jules Dekis.
Bonjour à tous. Les Palestiniens continuent à manifester aujourd'hui avec de nouveaux risques de violence face à l'armée israélienne. Les armes ou la négociation pour résoudre le conflit au Proche-Orient, en plein processus de rapprochement, le Hamas et le Fatah semblent plus divisés que jamais. La Californie est toujours la proie des flammes, des incendies ravagent la région depuis près d'une semaine. Avec des étés et des automnes de plus en plus secs, il va falloir s'habituer à ces sinistres, prévient le gouverneur de l'État. Lactalis aurait-elle fait preuve de légèreté? Le gouvernement élargit ce matin le retrait de lait infantile vendu par l'entreprise après la contamination de plusieurs nourrissons aux salmonelles. Dans ce journal également, il sera question du vote des adhérents des Républicains. Le parti élit son nouveau chef aujourd'hui. Celui-ci sera-t-il d'emblée affaibli par l'abstention? C'est l'enjeu du scrutin. Et puis, à la fin de cette édition, la face cachée du globe. Éric Biegala nous emmènera notamment en Slovénie où les agents secrets du pays ont fait grève cette semaine. Les risques de violence au Proche-Orient sont donc toujours très forts. Les Palestiniens manifestent aujourd'hui pour protester contre la décision des Américains de transférer leur ambassade d'Israël de Tel Aviv à Jérusalem. L'armée israélienne annonce ce matin avoir détruit un tunnel du Hamas reliant la bande de Gaza à son territoire. Plusieurs de ces raids ont fait 4 morts côté palestinien cette semaine. Le Hamas, qui continue à appeler à la lutte armée, le Fatah de Mahmoud Abbas se veut lui plus modéré. En conflit fratricide depuis 10 ans, les deux formations sont engagées sur la voie de la réconciliation depuis l'accord du Caire, signé en octobre dernier. Mais ce nouvel épisode pourrait sonner le glas de ce rapprochement. À Ramallah, pour France Culture, la correspondance de Marine Vlaovic.
Pour le moment, le Fatah et le Hamas, les deux principales factions palestiniennes, ne s'accordent pas sur la stratégie à adopter. De son côté, le Hamas a immédiatement appelé à une troisième intifada depuis la bande de Gaza qu'il gouverne depuis 10 ans. Un appel réitéré aujourd'hui par la branche armée du mouvement islamiste, les brigades Al-Qassam, qui ont déclaré que l'ennemi payerait le prix de ses agressions. C'est une référence au bombardement israélien sur l'enclave palestinienne suite à des tirs de roquettes ainsi qu'aux affrontements qui ont opposé l'armée israélienne aux manifestants. En Cisjordanie, l'autorité palestinienne contrôlée par le Fatah de Mahmoud Abbas est plus mesuré, voire attentiste, et privilégie la voie diplomatique pour faire reculer Donald Trump. Les deux frères rivaux palestiniens étaient pourtant engagés sur la voie de la réconciliation, un rapprochement qui devait se concrétiser avec la reprise du contrôle de la bande de Gaza par l'autorité palestinienne et qui a de nouveau été reporté. Mais la question de Jérusalem n'est pas la seule responsable de ce vacillement. Les points de crispation entre le Fatah et le Hamas, encore nombreux, n'ont pas été réglés, notamment le sort des fonctionnaires du Hamas. Contrairement à ses engagements pris au Caire en octobre dernier, l'autorité palestinienne ne leur a pas versé de salaire le mois dernier. Ils ont annoncé une grève pour mardi, date hypothétique d'un passage de témoins dans la bande de Gaza.
Marine Vlaovic à Ramallah pour France Culture. Aujourd'hui, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou est en visite à Paris pour un déjeuner prévu avec Emmanuel Macron. Le président devrait lui rappeler la position de la France contre la décision américaine de faire de Jérusalem la capitale d'Israël. La Ligue arabe dénonce également cette décision. Réunie en session extraordinaire hier soir, elle a dénoncé une violation dangereuse du droit international et demande à Donald Trump de revenir sur sa décision. Les pompiers californiens gagnent peu à peu du terrain. Ils commencent à maîtriser les feux qu'ils combattent depuis le début de la semaine. 6 foyers au nord et au sud de Los Angeles. 70 000 hectares de forêt et des centaines de bâtiments sont calcinés. Des incendies de plus en plus fréquents dans le sud-ouest des États-Unis. L'été et l'automne ont été très secs dans la région. Le gouverneur de la Californie parle d'une nouvelle norme, Loïc Piala.
Malgré 4 400 pompiers, 30 hélicoptères et 575 camions incendies, le Thomas Fire a détruit plus de 60 000 hectares depuis lundi. Il n'est contenu qu'à 15% et menace encore 15 000 constructions au nord de Los Angeles. La mobilisation de tous ces moyens a déjà coûté 17 millions de dollars à la Californie. La journée de samedi n'a toutefois pas été la pire de la semaine. Les vents ont légèrement baissé, mais ils pourraient reprendre dès aujourd'hui. Au sud de la Cité des Anges, les pompiers sont parvenus à contrôler un autre incendie massif, le Lilac Fire. Là aussi, ils restent prudents. Entre début octobre et fin décembre, les précipitations moyennes sont de 8 cm dans la région. il n'a pas plu cet automne. Le gouverneur Jerry Brown, venu constater les dégâts, a été très clair. Cette nouvelle réalité risque de durer. Combattre les feux à Noël pourrait devenir une habitude avec le réchauffement climatique.
Loïc Piala à Los Angeles pour France Culture. Il demande une taxe européenne sur les transactions financières pour financer la lutte contre le réchauffement climatique. Quatre ministres, Nicolas Hulot, Bruno Le Maire, Jean-Yves Le Drian et Frédéric Vidal, signent une tribune dans le journal du dimanche ce matin, à deux jours de l'ouverture d'un nouveau sommet international sur le climat à Paris. Ils veulent étendre aux pays membres de l'Union européenne cette taxe Tobin en vigueur en France. C'est un projet discuté depuis plusieurs années à Bruxelles. Il pourrait rapporter une vingtaine de milliards d'euros par an d'après la Commission européenne, mais pour l'instant, il est au point mort. Rappelons tout de même que pour attirer les investisseurs après le Brexit, le gouvernement français a décidé l'été dernier de ne pas étendre cette taxe comme c'était pourtant prévu. Bruno Le Maire qui se saisit ce matin d'un autre dossier, celui du lait infantile contaminé au salmonelle. En début de semaine, le groupe Lactalis avait procédé au retrait de plusieurs lots après l'intoxication de 20 nourrissons. On a appris depuis l'existence de 5 nouveaux cas. Bonjour Noé Pignède.
Bonjour.
Le ministre de l'économie a donc ordonné ce matin un rappel beaucoup plus large, jugeant les mesures prises par Lactalis insuffisantes.
Et oui, insuffisantes, car c'est en fait plus de 600 lots de lait infantile qui pourraient être contaminés, selon le ministère de l'économie. La semaine dernière, le PDG de Lactalis, Arnaud Boisnard, assurait que tous les produits étaient conformes sur le critère salmonelle. Mais les investigations menées par les autorités sanitaires dans l'usine confirment le lien entre ces cas de salmonellose, et les produits du groupe Lactalis. Pour l'instant, rien ne permet de mettre en cause l'entreprise, assure un inspecteur de la DGCCRF en charge de l'enquête. Mais des contrôles sanitaires étaient régulièrement effectués dans l'usine, explique-t-il. Cette bactérie est difficilement détectable et c'est pour ça qu'elle a pu passer entre les mailles du filet.
Alors que doivent faire les parents qui utilisent du lait infantile, Noé ?
Eh bien d'abord, il faut vérifier que le lait qu'ils utilisent ne fait pas partie de la liste fournie par le ministère de la Santé. Donc c'est principalement des produits des marques Milumel, Picot et Carrefour. Le ministère donne également une solution de substitution, faire bouillir ce lait. Un numéro vert est également mis à disposition, le 0800 636 636, et en cas de symptômes d'infection alimentaire, notamment de diarrhée et de fièvre, contactez au plus vite votre médecin.
Merci Noé Pignède pour toutes ces précisions. Il reste quelques heures aux adhérents des Républicains pour élire leur président. Ils sont pour l'instant un peu plus de 50 000 à s'être prononcés, annonce la formation politique sur Twitter. 50 000 sur 235 000 militants. Le scrutin ouvert hier soir s'achève à 20h. Le vote sur Internet devait permettre de limiter cette abstention. Alors le futur président du parti sera-t-il bien élu ou affaibli dès son entrée en fonction? C'est tout l'enjeu du scrutin, Yannick Falt.
C'est un peu comme les manifestations entre les chiffres de la police et ceux des syndicats. Chacun son curseur, chacun son objectif. À moins de 100 000 votants, c'est un échec, dit Florence Portelli. Laurent Wauquiez table, lui, sur la moitié, 50 000. Manière espère le favori de souligner une mobilisation meilleure que prévue, alors que le parti coupe la poire en deux, avec une fourchette de 60 à 80 000 participants. Beaucoup moins, en tout cas, qu'en 2012 pour le duel Copé-Fillon, 176 000 électeurs, ou qu'en 2014 pour le retour de Nicolas Sarkozy, opposé au second tour à Bruno Le Maire, 155 000 votants. Conséquence d'une campagne qui n'a pas passionné, loin de là, une présidentielle imperdable perdue, Emmanuel Macron qui séduit à droite des ministres dont le premier d'entre eux, dans son gouvernement, des parlementaires constructifs, des concurrents de poids, Xavier Bertrand et Valérie Pécresse forfait, une élection sans grand suspense et une faible participation attendue qui fragiliserait le vainqueur. Mais les partisans de Laurent Wauquiez récusent déjà tout procès en illégitimité en rappelant qu'en 2002, il y avait moins de 50 000 votants pour l'élection d'Alain Juppé.
Les résultats du vote sont donc attendus dans la soirée. La mort de Johnny Hallyday a visiblement nuit au Téléthon. Très nette baisse des promesses de dons cette année avec 75 millions d'euros pour l'instant, presque 20 millions de moins que l'an passé. Le show télévisé a visiblement souffert de la place prise par les obsèques de Johnny dans les esprits et les médias. Il est tout de même encore possible de faire un don au 36-37 toute cette semaine pour lutter contre les maladies génétiques. À 12h38 sur France Culture, on part maintenant pour la face cachée du monde avec Éric Biégala. Bonjour Éric.
Bonjour Jules, bonjour à tous. Parmi les événements de la semaine, qui n'ont pas forcément fait la une de vos journaux, mais qui méritent pourtant d'être signalés, on notera lundi tout d'abord l'annonce par la Suisse qu'elle allait restituer au Nigeria environ 321 millions de dollars, détournés par l'ancien dictateur Sani Abacha, qui a dirigé le pays de 1993 à 1998. Une petite partie de la véritable fortune détournée en 5 ans par Sani Abacha et ses proches, une fortune estimée en tout à plus de 4 milliards de dollars. Mercredi, l'ONG Observatoire des situations de déplacement interne publiait son rapport annuel sur les des déplacements forcés en Afrique. Sur ce continent uniquement, quelques 2 700 000 personnes ont été déplacées de force sur les 6 premiers mois de l'année 2017, soit en moyenne 15 000 personnes tous les jours. Jeudi, on n'en a pas beaucoup entendu parler, bien sûr, mais en Slovénie, les agents secrets se sont mis en grève. Une grève perlée des 300 agents de l'agence slovène de renseignement, et ce pour protester contre le niveau de leur traitement, ceci ne dépassant pas les 1 000 euros par mois. Enfin, ce vendredi a vu le lancement de l'immense projet d'exploitation gazière dans l'extrême nord de la Sibérie russe, le projet Yamal, qui vise à construire une usine de liquéfaction de gaz exportable vers la Chine et l'Europe. Porté par un consortium russo-franco-chinois, le projet prévoit d'acheminer ce gaz liquéfié par d'énormes méthaniers brise-glace géants, dont le premier a été baptisé le Christophe de Margerie, du nom de l'ancien patron de Total, mort dans un accident d'avion en Russie en 2014. Ce samedi, c'était la journée internationale anticorruption. En Ukraine, elle avait un goût particulier, alors que les autorités sont accusées de vouloir étouffer la lutte anticorruption. Ce mercredi, l'agence indépendante anticorruption, le NABU, a même failli être liquidée. Elle n'a été sauvée que grâce à la pression des Occidentaux. À Kiev, Sébastien Gobert.
En moins de 2 semaines, les autorités politiques et judiciaires ont protégé la direction controversée d'une agence de prévention de la corruption, destitué le chef intègre du comité parlementaire anticorruption et ouvert une enquête sur le directeur du NABU, l'agence anticorruption la plus efficace et la plus indépendante. Les autorités nient toute malveillance et assurent opérer dans le cadre de la loi. Il n'empêche que ces initiatives ont été perçues comme une revanche du système de corruption endémique après plusieurs scandales dérangeants. À cause de cela, les Occidentaux ont publiquement menacé l'Ukraine d'un arrêt de l'aide financière et technique dont bénéficie le pays. Les parlementaires ont donc abandonné à la dernière minute leur projet de renier l'indépendance du NABU. Le président Petro Poroshenko, lui, essaie de faire bonne figure, assure qu'il n'a rien à voir dans ces querelles et entend relancer un projet de création de haute cour anticorruption. Mais Petro Poroshenko souffre d'un manque de crédibilité en Ukraine. Lui et ses proches sont accusés de vouloir étouffer des enquêtes qui les embarrassent avant le début de la campagne présidentielle en 2018. Dans un contexte où les institutions sont verrouillées par le pouvoir, l'opposition politique a repris le chemin de la rue. Des manifestations sont menées par le tonitruant ancien président géorgien Mikhail Saakashvili. 4 ans après la révolution de l'Euromaïdan, la corruption reste le problème numéro 1 des Ukrainiens. Et elle replonge le pays dans une cacophonie sans nom.
Et puis au Mexique, la loi de sécurité intérieure est sur le point d'être adoptée par les législateurs. Ce projet, porté par le parti du président Enrique Peña Nieto, décerne à l'armée un rôle prépondérant dans le rétablissement de la sécurité. Les organisations civiles dénoncent une militarisation du pays sous prétexte de lutte contre le crime organisé et le narcotrafic. À Mexico City, Emmanuel Stills.
Carte blanche aux militaires pour combattre l'insécurité, c'est l'essence de la loi de sécurité intérieure qui pourrait être adopté au Mexique. Comme s'il s'agissait d'un champ de bataille, 50 000 soldats sont déployés dans plus de la moitié du pays depuis 2006. Leur mission, assurer la sécurité, est un échec fracassant. La violence a explosé et l'armée est régulièrement accusée d'abus envers la population. Cette loi pourrait être une garantie supplémentaire d'impunité. C'est l'avis de Santiago Aguirre du Centre Miguel Agustín Pro, une organisation de défense des droits humains.
Malheureusement, au Mexique, il y a une longue tradition qui veut que les militaires ne rendent de compte à personne. C'est un pouvoir qui ne se soumet pas aux autorités civiles. Lorsqu'ils commettent des actes de corruption ou des violations des droits de l'homme, ils ne sont pas inquiétés et jouissent d'une trop grande impunité. Une loi qui perpétue la participation de l'armée dans les missions de sécurité publique va déboucher sur un maintien de la violence et des violations des droits humains.
Face à l'augmentation des homicides et des crimes violents, les Mexicains ont peur. Les organisations civiles qui répudient cette loi accusent le gouvernement d'exploiter cette peur et de substituer les forces de sécurité civile par des militaires. Laida Negrete, spécialiste du système judiciaire mexicain, plaide pour l'inverse, le renforcement de la police.
Nous ne sommes pas en train de dire que nous ne voulons pas d'armée, mais nous voulons des policiers. Une police forte avec des moyens et des policiers professionnels, honnêtes. La construction de cette force civile, c'est ce qui pourrait véritablement pacifier le pays.
Le combat corps à corps avec les cartels, tel que le préconisent les militaires, n'est pas la solution à l'insécurité, selon les opposants à la loi. Pour eux, il faut développer des méthodes plus intelligentes pour combattre le crime organisé au détriment de la force brute de l'armée. Car à quoi bon maintenir une stratégie qui nous a menés en enfer, demandent les Mexicains à leurs législateurs.
La face cachée du globe avec Éric Biégala, retrouvé sur franceculture.fr. La météo de ce dimanche reste très perturbée. La vigilance orange, neige, éverglas et vent violent concerne encore 10 départements. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, l'Ardèche, la Drôme, la Lozère, les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence. La Savoie est-elle en alerte orange aux avalanches? Mis à part un quart nord-ouest, tout le pays est encore sous la pluie. Des précipitations jusqu'à ce soir avec des vents violents dans l'intérieur des terres. Les températures sont plutôt douces cet après-midi, de 3 à 16 degrés. La minimale en Haute-Savoie et la maximale en Corse. C'est la fin de ce journal réalisé avec Martin Descloseaux et produit par Antonin Thomasson.